France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Et l'actualité ce matin, c'est cette interview du président de la République sur TF1 et France 2 à 20h ce soir. Interview censée provoquer un électrochoc chez les Français pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie. Le chef de l'État va-t-il annoncer une série de mesures beaucoup plus contraignantes? En tout cas, toutes les options sont sur la table dans les villes les plus touchées, indique son entourage. La priorité reste d'éviter un nouveau reconfinement généralisé. Nous y reviendrons largement dans nos journaux ce matin. Et puis on a appris hier que l'édition 2021 du Salon de l'Agriculture, qui devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars prochain, est annulée dans sa forme actuelle en raison de l'épidémie. Toujours, le concours général des produits agricoles sera, lui, maintenu. Alors qu'un suspect a été mis en examen hier dans l'affaire de l'attaque de deux policiers en civil à Herblay, dans le Val d'Oise, les syndicats de policiers sont ressortis plutôt satisfaits d'une première entrevue avec leur ministre de tutelle. Gérald Darmanin leur a promis 325 millions d'euros supplémentaires en 2021 au titre du plan de relance. Un geste a également été fait pour les agents de nuit qui obtiennent 15 millions d'euros pour leur prime nocturne. La figure de proue de l'opposition belarusse, Svetlana Tikhanovskaya, a lancé un ultimatum au président Alexandre Loukachenko. Depuis la Lituanie où elle est réfugiée, l'opposante a donné jusqu'au 25 octobre à l'autocrate pour quitter le pouvoir. Sinon, promet-elle, ce sera la grève générale. Le président sortant qui s'accroche au pouvoir a durci la répression contre les manifestations d'opposition, tout en montrant quelques signes d'une possible volonté de dialogue. Il a rencontré ce week-end une douzaine de ses opposants. Et puis la campagne de l'élection présidentielle américaine se poursuit. Les deux candidats se sont succédés hier en Floride pour tenter de séduire les seniors. Joe Biden, l'ancien vice-président démocrate de 77 ans, a tenu un discours d'une demi-heure en détaillant des propositions pour les personnes âgées, un électorat crucial dans cet état clé.
Здравствуйте, с вами говорит инженер атомной энергетики Григорий Медведев.
Elle mène le combat littéraire et politique avec un courage exemplaire. En soutien à l'écrivaine et prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, en première ligne aujourd'hui dans la contestation en Biélorussie, France Culture vous propose un cycle consacré à son œuvre. Il se poursuit avec la supplication.
Чернобыльская молитва.
Comme dans tous ses livres, elle y recueille la parole des survivants. La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, de Svetlana Alexievitch. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous vous rendez compte, par le fait que je suis née en Iran, mon passeport me permettait de voyager dans un seul pays.
Petite fille excentrique de la bourgeoisie de Téhéran, la dessinatrice Marjane Satrapi découvre la France en colonie de vacances, les chocobéennes, les malabars, les gros mots, l'odeur du métro, en un mot, la liberté. Elle publie en 2000 sa biographie en bande dessinée, Persépolis, qu'elle adapte au cinéma. À voix nue, Marjane Satrapi, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
6h03 sur France Culture, l'heure du monde des vivants avec Bruno David. Et ce matin, Bruno, vous revenez sur l'excitation provoquée par l'arrivée des deux premiers éléphants du Jardin des Plantes.
Juillet 1798, deux éléphants d'Asie, Elephas Maximus, dorment paisiblement dans la ménagerie du Jardin des Plantes, créée 4 ans auparavant. Un intrus se tient niché au fond de leur abri. L'homme est épuisé, car cela fait plusieurs nuits qu'il campe à proximité des pachydermes. Pourquoi dort-il avec des éléphants? Et qui est-il? Il s'agit du peintre Jean-Pierre Houël, bien connu pour ses tableaux de la prise de la Bastille, qu'il fallait montrer à tous. La peinture était là un outil d'information, si ce n'est de propagande. Mais vous allez voir qu'il n'y avait pas que la Bastille. Le peintre se passionne, comme beaucoup de ses concitoyens, pour ces deux animaux gigantesques arrivés en mars dernier. Il guette, prend des notes, dessine, enquête sur le comportement de ces bêtes étranges. C'est la 8e semaine qu'il passe en leur compagnie, car il veut révéler dans l'ouvrage qu'il prépare les plus intimes des secrets de la nature. Comment les éléphants, bêtes aussi volumineuses, s'y prennent-elles pour s'accoupler? Il y passe ses nuits. Et nos deux éléphants, qui sont-ils? Après avoir été capturés très jeunes sur l'île de Ceylan, ils se sont retrouvés chez le Stadhouder des Pays-Bas en juillet 1786. Mais l'époque est trouble. La victoire de Fleurus, au printemps 1794, ouvre aux révolutionnaires les portes de la Hollande. La Commission des Arts et des Sciences françaises réquisitionne les collections princières. À la suite de moult difficultés et la destruction de plusieurs cages, les deux éléphants, Hans et Parky, quittent la Hollande le 25 septembre 1797. Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, à qui sont destinés les éléphants, trépignent d'impatience. Après un hivernage à Cambrai, Hans et Parky arrivent finalement à Paris. Installés au Jardin des Plantes, ils déclenchent un engouement considérable. Car si les éléphants sont bien connus depuis l'Antiquité, les observer vivants est une chance unique pour les savants de la République. Le 29 mai 1798, les professeurs font entendre de la musique aux éléphants afin d'examiner si cela suscite leur ardeur. Les observations consignées précisent que les deux pachydermes se seraient montrés particulièrement excités lorsque retentit le très républicain « Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne !» Les scientifiques consignent un semblant d'érection civique chez Hans, ce parfait éléphant sans culotte, mais celle-ci tourne court, je n'invente rien. Notre peintre, las de coucher dans une ménagerie, renonce à l'observation directe d'un coït éléphantesque. Il dessinera néanmoins dans son livre une planche représentant un accouplement. Parky sur le dos et Hans sur elle lui faisant face, dans une position que l'on peut qualifier de classique chez les humains. Il fallait convaincre que les éléphants citoyens vivaient heureux dans la Nouvelle République. On retrouve la propagande. Cependant, si Jean-Pierre Houël sacrifie la véracité aux besoins idéologiques du régime, il note en légende « simulacre des instants de la génération chez les éléphants ». Houël manquait sans doute d'imagination, mais il était assez honnête.
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine, très tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast disponible sur l'application de Radio France ou l'écoute en ligne en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Tous les mercredis, un coup de cœur pour un film qui sort ou qui ressort au cinéma.
Je ne crois plus à l'impartialité. À l'objectivité. Je crois à la partialité. On peut penser à un cinéma qui n'est pas un cinéma de grand spectacle. Comme on peut penser à des livres qui sont des livres qui se vendent à quelques milliers d'exemplaires et qui ont une énorme influence, vous voyez.
On reconnaît la musique, bien sûr. On reconnaît surtout la voix de Marguerite Duras, en 1975, à la sortie de son film India Song. Et on peut, à partir d'aujourd'hui, voir la version restaurée de ce film culte de Marguerite Duras, soit sur grand écran, dans les salles de cinéma donc, soit chez soi, en DVD, puisque c'est une sortie simultanée. Alyssa Vance, l'auteur-chanteuse Alyssa Vance, scénariste et écrivaine, par ailleurs, qui enseigne l'histoire du cinéma dans les lycées ou les techniques de scénario, a écrit une passionnante analyse du film India Song, publiée par le site Criticart, si bien qu'elle est ce matin l'invitée du Réveil culturel. Bonjour Alyssa Vance.
Bonjour.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
J'écoute India Song.
Je suis venu aux Indes à cause d'India Song. Cet air me donne envie d'aimer. Je n'ai jamais aimé. Je n'avais encore jamais aimé.
Michael Lonsdale, autre voix reconnaissable, une manière aussi de lui rendre hommage. La voix reconnaissable de Lonsdale, de Delphine Sering, de Marguerite Duras, India Song, donc, qui ressort au cinéma, mais aussi en DVD chez Tamassa à partir d'aujourd'hui. Et vous, Alyssa Vance, pour vous, India Song n'est que musique. Et vous avez raison de le dire, parce que la musique de Carlos D'Alessio, la chanson de Jeanne Moreau, sont intimement liées comme à ce film, India Song. Et donc vous écrivez, Alyssa Vance, India Song n'est que musique, à la fois oubli du temps et reconstruction d'une temporalité nouvelle, lancinante, éminemment subjective, où les heures semblent plus pouvoir se compter en minutes, ni les minutes en secondes.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que le mouvement de ce film India Song est un mouvement qui est tout sauf rationnel. C'est un mouvement qui obéit à la mémoire, à la musique, à quelque chose d'extrêmement affectif. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, ce film opère une sorte de charme, d'envoûtement et peut séduire de façon très très intime, très forte. Pour moi, effectivement, le film entier est une musique. C'est-à-dire que c'est effectivement la musique de Carlos D'Alessio qui est primordiale, mais tout le reste obéit à une forme musicale. D'abord parce que ce sont des voix qui racontent l'histoire, des voix venues dont on ne sait pas très bien où, qui vont raconter comme ça cette histoire.
Cette histoire, justement, Alyssa Vance.
D'Anne Marie Stretter, oui.
Donc, oui, alors, la femme de l'ambassadeur et le vice-consul réunis le temps d'une soirée à l'ambassade de France à Calcutta, c'est une rencontre qui se raconte au passé, quand tout est passé, le désir, la vie, les souvenirs. Mais comment vous résumeriez-vous l'histoire de India Song?
Oh, ça c'est une question très compliquée. Je crois que ça peut se résumer par des mots, par des sensations. C'est l'histoire de Calcutta, c'est l'histoire de l'ambassade de France, c'est l'histoire d'une femme qui est une femme d'ambassadeur, qui s'appelle Anne-Marie Stretter, qui est entre différents hommes, différents amants, dont Michael Richardson, qui est son grand amour, et puis qui va être abordée par un homme qui est interprété donc par Michael Lonsdale, qui est le vice-consul, et qui est un homme qui va lui déclarer son amour impossible, son désir impossible, et qui va, le temps d'une soirée, d'une réception à l'ambassade, hurler cet amour sous le nom de cette femme, c'est-à-dire ce nom qui est Anna Maria Guardi, qui est son nom de jeune fille, son nom de Venise, son premier nom. Et il va hurler ce nom en disant qu'il veut qu'on le sache, au moins qu'on peut crier un amour. Mais quand je résume le film comme ça, ce qui me saute surtout aux oreilles, c'est que ce sont des sensations. C'est l'ouïe, ce cri, cette musique. C'est la chaleur, parce qu'on est à Calcutta, qu'il fait une chaleur épouvantable. C'est l'odeur de la lèpre, que Duras décrit comme une odeur de fleurs, et qui est tellement, tellement forte qu'elle envahit comme ça tout, et qu'elle fait ressentir, deviner l'horreur, la misère qu'on ne voit pas, qui est hors champ. Voilà, c'est un film qui est un film sensoriel. Je crois qu'on ne peut pas vraiment le résumer de façon narrative, parce qu'il n'obéit pas à une logique narrative classique. Il obéit vraiment à une recherche sensuelle, une recherche sensorielle extrêmement puissante.
Quand le film est sorti en 1975, vous n'étiez pas née, Alyssa Vance.
Non, je n'étais pas née.
Puisque vous allez naître plus de 10 ans après la sortie de ce film. Comment vous l'avez vu, ce film? Dans quelles conditions? Comment vous avez fait la rencontre avec India Song?
Alors moi...
C'est par la littérature, je
suppose. C'est une question un peu personnelle. J'ai une histoire assez particulière avec ce film, puisqu'en fait, c'est un film que j'ai vu pendant l'enfance. J'ai été biberonnée à India Song, ce qui est un peu surprenant. Je pense que c'est une éducation étonnante. Mais il se trouve que...
Vos parents?
J'ai un prénom qui vient de Duras, qui vient de Détruire, dit-elle, qui est un roman et un film de Duras, avec une héroïne qui s'appelle Alyssa. Et donc j'ai une histoire effectivement personnelle assez forte avec Duras en général et avec India Song en particulier, qui explique que, sans doute que je me sois tournée à la fois vers la littérature comme écrivaine et à la fois vers la musique comme chanteuse, parce que pour moi, Duras, c'est tout cela à la fois. Quoi. C'est un rapport à la littérature qui est éminemment musical et au cinéma qui est éminemment musical, et elle est vraiment à la croisée des chemins entre la musique, la littérature et le cinéma.
Ça, c'est pour Marguerite Duras, oui. Votre histoire avec India Song, la première vision de ce film.
La première vision de ce film est une sorte de fascination matinée d'incompréhension, je crois, mais qui n'empêche pas la fascination, qui n'empêche pas l'amour non plus. Je suis pas persuadée qu'il faille forcément tout comprendre pour aimer quelque chose, ni pour aimer quelqu'un d'ailleurs. Et en tout cas, oui, je pense que j'ai très vite été happée par la beauté de cette femme qui est filmée d'abord, Delphine Seyrig, et puis de ses plans. C'est un film qui est quand même d'une audace formelle incroyable, puisqu'on a, je crois, 74 plans en tout, ce qui est très très peu. C'est-à-dire que chaque plan dure plus d'une minute, une minute ou deux, et donc on a comme ça des plans extrêmement longs qui accordent une importance incroyable au décor, aux objets, et cette musique qui va tout emporter, qui va déferler sur l'ensemble du film. Duras disait une chose très belle, je crois, à propos d'India Song, qui est que c'était une sorte de revanche de la musique sur le cinéma, la musique ayant été maltraitée par le cinéma pendant des décennies, et là tout à coup elle prend sa revanche, et je crois que c'est assez juste, c'est-à-dire que en fait au cinéma généralement l'image est primordiale, le son vient après, le son est subordonné à l'image, on suit d'abord l'image du film, puis on entend des voix qui en général correspondent à ce qu'on voit à l'écran, et donc dans la pensée du film c'est d'abord l'image, et India Song c'est l'inverse, dans la pensée du film c'est d'abord le son. C'est d'abord ce que vont raconter ces voix, ce que va raconter cette musique de Carlos D'Alessio. Et d'une certaine façon, l'image intervient presque après. En tout cas, il n'y a pas d'hiérarchie.
C'est le moment d'intervenir et de dire que si India Song est vraiment un film qui prolonge l'acte littéraire de Marguerite Duras, je dois le rappeler, parce qu'on est sur France Culture, que c'est aussi un film imaginé à la radio, parti d'une expérience radio. Parce que Marguerite Duras était très amie avec Alain Trutat, qui était alors responsable des émissions dramatiques sur France Culture et le créateur des ateliers de création radiophonique. Et c'est lui qui propose à Marguerite Duras de venir à la radio et d'essayer d'imaginer à partir d'un de ses romans, Le Vice-Consul, une émission de radio. Et c'est à partir de cette bande-son, à partir de cette émission de radio, que Marguerite Duras va imaginer le film India Song.
Tout à fait. Et c'était conjointement un travail théâtral aussi qu'elle a écrit, mais qui n'a pas, qui n'a pas abouti sous forme théâtrale, puisque c'était une commande de Londres, de Peter Hall, du National Theatre à Londres, qui devait ouvrir et qui voulait monter cette pièce qu'elle a écrite, qui a été publiée chez Gallimard en 73. Et finalement, le National Theatre a pris du retard, donc ça n'a pas été monté sur scène, mais elle a fait cette pièce radiophonique, puis ce film, et India Song est devenue cinéma.
Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit les personnages, on entend les voix, ce n'est jamais synchrone. Alice Avent.
Effectivement, ça, c'est quand même la grande trouvaille de ce film, c'est que les comédiens restent bouche fermée, lèvres closes tout au long du film, et on entend leurs paroles, leurs dialogues avec leur voix, mais jamais ils ne bougent les lèvres pour dire ces mots. Et c'est absolument, je trouve que c'est un effet saisissant, parce que ils sont présents sans être présents, ils sont présents et absents, ils traversent le film sans jamais ouvrir la bouche, ils deviennent des sortes de fantômes, c'est-à-dire que ce choix tout à coup inscrit le film dans une temporalité très particulière. On a l'impression qu'ils sont déjà morts au moment où le film commence, qu'ils sont des sortes de fantômes comme ça qui errent sous nos yeux et dont on entend des paroles qui sont un petit peu, c'est moi, ça me fait penser à ce poème de Verlaine, vous savez, mon rêve familier, qui dit l'inflexion des voix chères qui se sont tues. C'est un petit peu ça, c'est des voix qui se sont tues et qu'on entend comme ça par bribes, par réminiscences, mais qui semblent déjà envolées, déjà lointaines.
Écoutez Alice Avent ce que disait à ce propos de l'utilisation des voix, de cette technique, Marguerite Duras, à la sortie du film, en 1975.
Et j'ai trouvé ça, ces bouches fermées, tandis qu'ils écoutent leurs propres paroles. Et quand j'ai vu le film en rush, j'étais complètement convaincue. Il n'y a pas de confusion possible. Ils sont supposés avoir dit ça, c'est très loin. Tandis qu'ils vivaient, enfin qu'ils n'étaient pas encore engloutis dans la mort, des choses comme ça ont été dites. C'est tout ce qu'on peut dire, ce que je sais.
Voilà Marguerite Duras parlant d'India Song. Et dans votre article, dans votre analyse, Alyssa Vance, vous dites que ce dispositif permet justement de parler du désir, non pas comme une finalité, c'est-à-dire comment atteindre le désir, comment vivre le désir, mais au contraire, que ce dispositif permet de parler du désir dans une manière plutôt intellectuelle que charnelle.
Effectivement, je crois que Duras disait à propos, parce que le personnage qui incarne ce désir, c'est le vice-consul, hein, c'est Michael Lonsdale, qui est éperdument amoureux de d'Anne-Marie Stretter, de Delphine Seyrig. Et je crois qu'elle disait que ce n'était pas physique, que l'acte physique n'aurait pas de sens. On était au-delà de ça. Et en effet, dans ce désir qu'il exprime, il y a l'idée que, d'une certaine façon, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'objectif. C'est un désir qui n'est pas défini comme un manque, comme un vide, comme la recherche de quelque chose d'autre. C'est une forme pleine. Il est là. C'est un être là du désir et qui est en même temps complètement désespéré. C'est quand même un film qui raconte une forme d'impasse. Et la seule issue possible de ce désir, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la rencontre charnelle. C'est le cri. C'est le cri de douleur, qui est une sorte d'incarnation de la douleur, d'incarnation du désir comme douleur.
Ce serait donc ça le résumé pour vous d'Indiasson?
En tout cas, le cœur, j'ai l'impression, autour de cet ensemble de séquences centrales du film, qui sont la déclaration du vice-consul à Anne-Marie Stretter, puis cette séquence de cri qui a lieu hors champ, où on entend au loin le vice-consul crier son amour à Anne-Marie Stretter. Et oui, je pense que c'est un film dont le cœur intime est très lié à la question du désir et à la façon dont il le définit. C'est lié à une certaine description du désespoir. Ce qui est très beau, c'est que on dit, je crois, à propos d'Anne-Marie Stretter, c'est dans le texte aussi qui est publié, le texte de théâtre, qu'Anne-Marie Stretter est prisonnière d'une sorte de souffrance, mais très ancienne, trop ancienne encore pour la tristesse. C'est-à-dire que la souffrance est tellement ancienne que ce n'est plus de la tristesse. C'est quelque chose qui emprisonne, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la tristesse. C'est plutôt une sorte d'empêchement, d'impasse profonde, hein, métaphysique. Et je crois que le film décrit ça assez précisément. Duras disait aussi, je crois que son personnage d'Anne-Marie Stretter était une sorte de messagère de l'invivable, qu'elle racontait l'invivable, qu'elle portait ça. Et c'est ça que raconte aussi ce film, cette impossibilité à vivre, cette difficulté, cette impossibilité.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis. Toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles. Son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue.
La toi chanson d'India Song, bien sûr, par Jeanne Moreau. C'est un film surréaliste pour vous, Alyssa Vance. Vous posez cette question dans votre longue analyse consacrée au film de Marguerite Duras. Vous dites que l'approche est éminemment poétique et proche de ce que cherchait par exemple André Breton lorsqu'il évoquait le point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et l'avenir, le haut et le bas, le communicable et l'incommunicable cesseront d'être perçus contradictoirement.
Non, c'est pas un film surréaliste, historiquement, esthétiquement, je pense que ce serait erroné de dire ça, mais en revanche, je trouve qu'il y a une passerelle qu'on peut trouver dans cet art de la contradiction. On pourrait dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que India Song unifie en effet un certain nombre de contraires, réconcilie le présent, le passé, la vie, la mort. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une totalité qui est proposée. Anne-Marie Stretter dit à un moment donné du film, ce n'est rien de vivre aux Indes, ce n'est ni pénible, ni agréable, ni facile, ni difficile.
Ce n'est rien,
vous voyez rien. Ouais. Et en même temps, ce n'est rien et c'est tout. C'est-à-dire que c'est à la fois, finalement, on pourrait prendre le contre-pied de ça et se dire que vivre aux Indes, c'est aussi tout ça à la fois. C'est à la fois pénible et agréable, facile et difficile. C'est cette sorte de...
Et c'est pas en Inde, c'est aux Indes.
Aux Indes, aux Indes.
Donc ce sont des lieux inventés.
Ce sont des lieux inventés, et effectivement c'est aux Indes, et c'est un rapport au lieu qui est absolument fascinant, c'est-à-dire que tout est tourné à Boulogne, en gros, à Boulogne, au château Rothschild essentiellement, un peu rue Cortambert, tout est tourné en France, et ça c'est magnifique, et Duras disait qu'effectivement on n'avait pas besoin d'aller à Calcutta, que tout était ici. Le voyage était intérieur, mental, et ça c'est quelque chose qu'on ressent très fortement quand on voit India Song, cette confusion des espaces qui est magnifique parce qu'elle est métaphysique. C'est que on ne raconte pas vraiment Calcutta, on raconte une sensation de Calcutta, on raconte un voyage intérieur et une sorte d'impasse existentielle et de désir qui sont des choses universelles et qu'on n'a pas besoin de rendre par une reconstitution. Pour Marguerite Duras, la reconstitution, ce serait terrible. C'est là, le film est tout sauf une reconstitution, que ce soit sur le plan temporel ou géographique.
Sous le signe de Marguerite Duras, c'est le moins qu'on puisse dire, Alissa Valls, vous venez de publier votre premier roman, À trop aimer, où vous revenez sur les violences dans un couple à partir de choses vécues. Quand vous dites que Marguerite Duras est toujours là avec moi, par exemple, comment elle vous a accompagné dans cette aventure littéraire ?
Eh bien, par exemple, il y a une chose très importante dans India Song et puis dans l'œuvre de Duras en général, c'est la notion de cri, ce que le cri révèle. Et par exemple, dans mon roman « À trop aimer », le coup de foudre entre les deux personnages commence sous le signe de Duras, puisqu'en fait, la narratrice se sent tout à coup merveilleusement comprise par cet homme qu'elle rencontre et qui l'entend. Et elle a une réminiscence, elle pense à cette phrase « J'aimerais celui qui entendra que je crie ». Elle se dit que cet homme l'a comprise, a entendu qu'elle criait, a entendu son cri intérieur, son désir intérieur. Et ça, c'est une phrase durassienne, c'est une phrase qui est une réminiscence. La phrase précise de Duras, c'est « J'aimerais quiconque entendra que je crie ». Ça vient vraiment de Duras, et c'est cette phrase qui tout à coup va la faire tomber dans cette histoire d'amour fou qui va peu à peu se transformer en histoire d'emprise et en histoire destructrice que je raconte dans ce roman.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
45 ans après sa sortie, on peut revoir dans une version restaurée impeccable India Song de Marguerite Duras, soit au cinéma, soit en DVD, soit en Blu-ray chez Tamassa. Merci beaucoup Alissa Valls d'être venue nous en parler.
Merci.
Et je rappelle aussi le titre de votre premier livre paru chez De Noël, À trop aimer. Merci.
Merci.
Corinne Amar était à la coordination de cette émission, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Dofar Guérid. On se retrouve demain à la même heure. Passez une bonne journée sur France Culture.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
De grandes dates et des faits quotidiens, le cours de l'histoire sur France Culture, Xavier Mauduit.
Qu'en est-il du travail à domicile avant l'ère du télétravail ? Les paysans, s'ils ne sont pas dans les champs, fabriquent des couteaux, des horloges, du tissu. Ainsi, des paysans hors champ aux moines en bleu de travail et des aristocrates au labeur jusqu'au travail invisible des femmes au foyer, cette semaine, c'est une histoire du travail à domicile.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente Paris Podcast Festival, le premier festival dédié aux podcasts natifs. Des récits, des conversations, des fictions que l'on peut emmener partout avec soi, une autre manière de raconter le monde. 4 jours de rencontres avec des podcasteurs et des podcasteuses, de découvertes, d'ateliers, d'enregistrements publics et de compétitions officielles. Paris Podcast Festival, du 15 au 18 octobre, à la Gaîté Lyrique à Paris. Hors les murs et en ligne sur les réseaux. Un partenariat France Culture.
France Culture, il est 6h30, tout de suite le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quelles seront les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État pour contrer la deuxième vague de l'épidémie de Covid? Des options ont été évoquées hier lors d'un conseil de défense sanitaire et déjà les maires des grandes villes les plus touchées sont inquiets. Vous entendrez le maire de Lyon au début de ce journal. Nous nous pencherons également sur la façon dont les conservatoires gèrent les mesures de restriction présentes et à venir. À l'étranger, Joe Biden et Donald Trump continuent leur campagne sur le thème notamment des seniors. Ce sera le reportage de Grégory Philips. Enfin, l'OMC a sanctionné Washington hier pour ses aides à l'avionneur Boeing, un prêté pour un rendu puisque c'est Bruxelles qui avait été lourdement condamné auparavant pour ses aides à Airbus. Les grandes villes seront sans doute dans le collimateur des annonces du président de la République ce soir. Emmanuel Macron doit s'exprimer en effet à partir de 20h sur TF1 et France 2 pour annoncer une nouvelle stratégie de lutte contre le Covid, l'actuel ne produisant apparemment pas les effets escomptés. Hier, un conseil de défense sanitaire a posé, selon l'entourage du président, toutes les options sur la table, y compris la possibilité d'un couvre-feu local, sans certitude à l'heure qu'il est, quoi qu'il en soit, la mesure et de façon générale toutes celles qui pourraient être annoncées ce soir inquiètent les maires des grandes métropoles, à l'image du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.
On a besoin quand même d'agir dans une certaine finesse, avec un certain sens des proportions. J'espère que ça va être la direction prise ce soir. C'était le sens aussi de mon interpellation sur la question des jauges. Accueillir 1000 personnes dans une salle où il n'y a que 1000 places et accueillir 1000 personnes dans un stade où il y en a 60 000, c'est pas la même chose. J'aimerais un peu plus d'écoute aussi, que les autorités gouvernementales soient davantage à l'écoute des contextes et qu'on puisse affiner la réponse. Je dis pas que je veux un traitement de faveur pour Lyon, c'est pas ma demande. Mais je veux qu'on puisse comprendre les situations de chacun des secteurs. Chaque situation a ses particularités. Et en plus de ça, on a besoin d'avoir une analyse de ce qui s'est fait. Parfois, on a un peu l'impression qu'on est dans un empilement de mesures sans savoir si vraiment la mesure d'avant a permis d'empêcher la propagation du virus. Offrons-nous un petit peu de recul, anticipons davantage. Moi, c'est ce que je souhaite. Là, à dire que le couvre-feu est la bonne réponse, j'attends d'en avoir la justification pour bien comprendre.
Le maire de Lyon, Grégory Doucet, interrogé par Mathilde Imberti. Depuis plusieurs jours, l'exécutif distille des messages alarmistes sur le regain de l'épidémie et sur la situation dans les hôpitaux, notamment à Paris. Les derniers chiffres montrent encore une augmentation globale du nombre de personnes en réanimation. 1633 pour une capacité actuelle nationale d'environ 5000 lits et 84 décès en 24 heures. Mais le président sera également attendu sur le terrain économique de la gestion de la crise. Hier, les professionnels de l'hôtellerie-restauration indépendante se sont alarmés d'un possible couvre-feu, eux aussi, qui selon eux condamnerait à la faillite des milliers d'établissements. Et puis de nombreux rapports pointent une augmentation sévère de la pauvreté. En attendant, le fonctionnement des établissements qui accueillent du public et notamment des enfants et des adolescents tente de s'adapter depuis la rentrée. C'est le cas des conservatoires. La mise en place des cours en respectant les gestes barrières a été un casse-tête cet été et l'annonce de nouvelles mesures promet une suite de saisons encore plus compliquée. Le reportage de Laurent Borde.
Pour les conservatoires, la rentrée 2020 a été particulière à cause du coronavirus. Tout a dû être repensé, renouvelé, réactualisé afin de respecter les règles sanitaires obligatoires. Des règles difficiles pour tous les conservatoires, quelle que soit leur taille, comme l'explique Jean-Luc Touret, directeur du conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt.
Il a fallu à la fois rassurer, mais aussi pouvoir donner un axe fort à toutes et à tous. Donc on avait bien évidemment anticipé, parce que nous sommes dans un bâtiment qui est quand même assez grand. Il a fallu réfléchir à un plan de circulation, bien évidemment à tout ce qui est gestes barrières, acquisition de matériel, etc. Mais effectivement, dès l'accès au bâtiment, plus les circulations, plus l'accès aux étages, ça a été vraiment quelque chose qui a dû être vu et revu pour maintenir au maximum la sécurité de tout le monde.
Pour Sophie Berthomé, la directrice du conservatoire à rayonnement intercommunal du Creusot, tôt, la rentrée s'est également avérée compliquée.
On suit le protocole qu'avait recommandé le ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'on a des cloisons en plexiglas. Donc on fait très attention, on porte le masque si c'est nécessaire, autrement que chacun de son côté par rapport à la cloison. Et puis on a tout le matériel qu'il faut pour désinfecter les instruments s'il y a besoin de toucher les instruments pour les plus jeunes. Donc c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus long à mettre en place les cours. Il faut faire très attention, mais autrement, bon, ça se fait.
Tous les conservatoires sont prêts en cas de nouvelles restrictions sanitaires pour continuer leurs cours dans les meilleures conditions possibles. Un challenge difficile, mais pas infaisable.
Le vaccin anti-Covid, s'il arrive un jour, sera accessible aux pays en développement. Pardon, c'est en tout cas ce qu'a promis hier la Banque mondiale, qui a annoncé qu'elle débloquerait un plan d'aide de 12 milliards de dollars. En ce sens, cette enveloppe servira à financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour les citoyens de ces pays, soit la possibilité de vacciner jusqu'à 1 milliard de personnes. Et puis, ce mercredi, les ministres des Finances et chefs des banques centrales du G20 se réunissent pour discuter de la relance de l'économie après la crise, des discussions virtuelles présidées par l'Arabie Saoudite, alors qu'hier, le FMI annonçait une récession de 4,4% de l'économie mondiale pour 2020, en prévoyant que les répercussions de la crise dans le monde allaient durer plusieurs années. Il reste 21 jours avant l'élection présidentielle américaine et la campagne s'accélère. 10 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté par correspondance, signe que la participation est au rendez-vous. Pour l'instant, c'est Joe Biden qui distance assez nettement l'actuel président dans les sondages. Hier, les deux candidats ont tous les deux tenté de séduire l'électorat senior, des électeurs clés dans plusieurs États, dont la Floride, où le démocrate Joe Biden, senior lui-même, tenait un meeting. Le récit du correspondant de France Culture aux États-Unis, Grégory Phillips.
La toute dernière publicité télévisée de Joe Biden met en scène Mike, un retraité de la métallurgie, qui dit qu'il a travaillé 47 ans et que Donald Trump veut lui supprimer sa sécurité sociale, tandis que Joe Biden défendra son niveau de vie. Le candidat démocrate était d'ailleurs en Floride hier après-midi pour parler aux seniors, traditionnellement plutôt conservateurs. Mais cette année, petite révolution dans les sondages, Biden est très largement en tête chez les plus de 65 ans, entre 20 et 27 points d'avance sur Trump dans cette catégorie de la population. Jamais un candidat démocrate n'a été aussi populaire auprès de cette tranche d'âge depuis sans doute Bill Clinton en 1996. Ce que reprochent les seniors au président sortant, c'est avant tout sa gestion de la pandémie et ses propos récents. Ne vous laissez pas dominer par le virus. Alors le candidat républicain tente de rectifier le tir. Les seniors, vous êtes mes préférés, dit-il dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en suis un aussi. Mais cela suffira-t-il à convaincre les plus de 65 ans qui représentent 25% de l'électorat et encore plus dans des États clés comme la Floride où ils sont surreprésentés? Ces dernières semaines, on a vu là-bas des manifestations pro-Trump puis pro-Biden en voiturette de golf pour soutenir ces deux candidats seniors. Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, bientôt 78.
Grégory Phillips. C'est un dossier qui empoisonne depuis des années les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe, les aides gouvernementales aux géants de l'aviation, Airbus pour l'Europe, Boeing pour les États-Unis. Un dossier traité depuis plus de 15 ans par l'Organisation mondiale du commerce, qui a déjà lourdement condamné Bruxelles l'année dernière sur ce sujet, les États européens étant accusés de fausser la concurrence. Mais les États-Unis ne sont pas en reste, et hier, le même OMC a sanctionné Washington, ouvrant la voie à des mesures de rétorsion commerciale qui se comptent en milliards de dollars. Cette énième condamnation, toutefois, pourrait être la dernière. Les explications de Marie-Pierre Véraud.
Le match semblait sans fin depuis que le président Bush avait déterré la hache de guerre en 2004. Boeing dénonce alors les aides illégales que les gouvernements européens verseraient à leur avionneur Airbus. Bruxelles ne tarde pas à contre-attaquer contre les crédits dont bénéficierait indûment Boeing. Jugements et appels se succèdent et dans cette bataille technico-juridique, outre Airbus, des victimes collatérales venues d'Europe, vin, fromage ou encore huile d'olive. L'an dernier, l'OMC a en effet autorisé Washington à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de produits européens. Hier, Bruxelles a donc obtenu à son tour le feu vert du gendarme du commerce pour riposter à ces surtaxes, et ce pour près de 4 milliards de dollars. C'est moins, mais la somme reste conséquente. Et outre Boeing, les Européens pourraient sanctionner la patate douce, le jus d'orange congelé ou encore le saumon du Pacifique américain. mais tout en peaufinant sa liste de produits, la commission répète que personne n'a gagné à de douloureuses mesures et contre-mesures et laisse entendre que si Washington retire ses mesures, l'Europe pourrait s'abstenir d'imposer les siennes. Épuisée par leur guérilla, dans un contexte de souffrance du secteur aérien et de crise économique avivée par la pandémie, les deux parties semblent de nouveau prêtes à négocier, mais le marchandage ne fait que commencer.
Marie-Pierre Véraud, le temps de ce mercredi pour finir, il sera frais et couvert, voire pluvieux et orageux dans le sud-ouest. Sur les Pyrénées, la neige tombera au-dessus de 1200 mètres du massif central aux Alpes, temps maussade avec quelques averses et de la neige également. Dans le sud-est, temps pluvieux en matinée, puis le ciel hésitera entre nuages et soleil. Les températures, les minimales seront comprises ce matin entre 0 et 13 degrés dans le sud-est et les maximales en baisse avec pas plus de 11 à 14 degrés sur le pays cet après-midi, 17 à 20 dans le sud-est. Et à 6h40 sur France Culture, c'est le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
À l'approche des élections américaines, chaotiques et dans l'attente de nouvelles restrictions de nos libertés face à la crise sanitaire, la question de la démocratie se pose à nous.
Oui. La crise de la représentation et sa corollaire montée de l'abstention sont depuis des années les signes les plus visibles d'une perte de légitimité du modèle démocratique. La dernière livraison de la revue Projet publie un dossier sur la question et Johan Dubigeon rappelle la lente évolution de nos démocraties depuis les révolutions anglaises, américaines puis françaises vers l'idéal d'un exercice du pouvoir par le plus grand nombre et son reflux depuis quelques décennies. Longtemps, le gouvernement représentatif s'est d'abord apparenté à un parlementarisme des notables. C'est sous la pression du mouvement ouvrier par l'instauration du suffrage universel et la formation des organisations de masse que le système s'est réellement démocratisé, favorisant l'intégration politique des classes populaires et la structuration de corps intermédiaires puissants. C'est ainsi qu'ont émergé des figures d'ascension sociale au sein des partis liés au mouvement ouvrier. Mais aujourd'hui, le recul des corps intermédiaires et de la socialisation politique, conjugué au rapprochement idéologique d'alternance politique gagné par le technocratisme néolibéral, je cite, « a ouvert une crise de la représentativité ». S'ajoute à cela pour le sociologue au CNAM que la mise en spectacle médiatique des fonctions représentatives ont favorisé le passage à une démocratie du public. Désormais, ce ne sont plus les clivages sociaux qui déterminent les clivages politiques, mais des représentants communicants qui impriment leur propre clivage, souvent flou et artificiel, afin de se placer au centre du jeu politique. Résultat, la démocratie se réduit chaque jour davantage à l'état de droit et à la défense des libertés individuelles. S'ajoute à cela la question du financement des partis et des campagnes électorales soulevées par Julia Cagé. Elle cite l'exemple du parti travailliste au Royaume-Uni, d'abord financé par des syndicats et dont 40 à 50% des élus étaient issus des catégories populaires. Margaret Thatcher s'est employée à réduire ses possibilités de financement par les syndicats et Tony Blair a favorisé les dons privés, ce qui s'est traduit notamment par un effondrement des représentants issus des classes populaires. L'économiste à Sciences Po relève dans le système français de financement des partis une véritable injustice. Par le biais des déductions fiscales associées aux dons, qui sont quasiment équivalents au financement public, on donne autant d'argent pour financer les préférences politiques d'un tout petit nombre. C'est pourquoi elle plaide en faveur de bons pour l'égalité démocratique allouée à chaque citoyen pour qu'il l'attribue au mouvement politique de son choix. En politique, l'argent est le nerf de la guerre, c'est bien connu. Éric Philippot examine sur le site La Vie des idées l'exigence démocratique de la transparence, trop souvent instrumentalisée pour assainir la vie politique et si facilement contournée. Je cite, malgré la promesse d'une transparence accrue, soutenue par une accumulation de règles depuis 1988, l'impression qui prévaut est celle d'une opacité persistante. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, instituée en 1990, a notamment eu à statuer sur le cas de Nicolas Sarkozy en 2012. Outre le dépassement du plafond, le Conseil constitutionnel a constaté deux autres infractions, l'absence de sincérité du fait des dépenses non déclarées et le financement irrégulier sur le budget de l'Élysée. La croyance qu'il faut dépenser plus pour se faire élire, combinée à l'existence de plafonds de dépenses bas, est une incitation à la dissimulation de frais engagés au-delà des limites fixées par la loi, estime le politique. élitiste. Et dans l'équation, la Commission nationale des comptes de campagne est perdante du fait de ses petits bras. Dans l'affaire des surfacturations Migma-Lyon, elle reconnaît benoîtement qu'il faudrait établir le nombre de chaises ou de caméras lors d'un meeting et nous n'avons pas une armée d'inspecteurs. Reste évidemment le travail salutaire des journalistes d'investigation. Après 1945, le consensus sur la démocratie s'est formé en partie sur le critère de l'efficacité, rappellent Jonathan Chalier et Michael Fessel dans la revue Esprit consacrée au mythe de l'impuissance démocratique. Pour une fois, des démocraties alliées avaient fait la preuve de leur supériorité militaire sur les régimes dictatoriaux. Dans le cas de l'épidémie Covid, le philosophe Axel Honneth estime que la manière dont les gouvernements ont géré la crise est un indicateur de leur qualité démocratique. Je cite « Plus un gouvernement exprime ses difficultés à contrôler la crise de manière ouverte, publique et rationnelle, plus il manifeste son potentiel démocratique. » (6h45) sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Bonjour Julie. Au sommaire des enjeux aujourd'hui, la justice internationale a-t-elle été rendue au Kosovo ?
Oui, on attend dans les heures ou les jours qui viennent la confirmation de l'inculpation par le tribunal spécial pour le Kosovo d'Hashim Thaçi, président du Kosovo depuis 2016, accusé d'être responsable d'une centaine de meurtres, de disparitions forcées, de persécutions et de tortures. Je cite les charges retenues contre lui. Hashim Thaçi était le commandant de l'armée de libération du Kosovo qui mena de 1998 à la fin de la guerre, en juin 1999, mais aussi au de là, une guérilla indépendantiste contre la Serbie, mais qui depuis quelques mois avait amorcé un rapprochement avec Belgrade. Bonjour Jean-Arnaud Derrins.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Alors il faut déjà replacer cette inculpation ou cette confirmation d'inculpation imminente dans le travail mené par le tribunal spécial pour le Kosovo, créé il y a seulement 5 ans. Pourquoi ?
Alors ces chambres spécialisées pour les crimes de guerre commis au Kosovo ont été créées sur la base du rapport de Dick Marty, le député suisse qui avait enquêté sur les crimes imputés à l'ancienne guérilla. Il avait rendu un retentissant rapport pour le Conseil de l'Europe en 2010, en décembre 2010. En réalité, la création de ces chambres spécialisées, c'est avant tout un constat d'échec du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui avait la compétence de juger l'ensemble des crimes commis durant toutes les guerres yougoslaves, depuis la guerre de Croatie jusqu'à celle du Kosovo. Dans le cas du Kosovo, le TPI n'a pas pu faire effectivement ce que l'on attendait de lui pour différentes raisons, mais en tout cas il est évident que sur beaucoup de dossiers il a été incapable de faire ce travail de justice. Et c'est donc sur la base de cet échec qu'ont dû être créées ces chambres spécialisées, alors qui ont un statut un petit peu particulier puisqu'elles sont délocalisées à La Haye aux Pays-Bas, mais elles sont formellement rattachées au système judiciaire du Kosovo. C'est pour cela cette histoire est un petit peu compliquée, cette histoire de la confirmation d'inculpation, puisque l'accusation internationale à La Haye a mis en accusation Hashim Thaçi, mais la procédure des chambres veut que cette mise en accusation soit confirmée par la justice du Kosovo. Alors au niveau de la chronologie, l'acte d'accusation date d'avril dernier. Il y a un délai de 6 mois qui tombe donc à échéance en octobre.
Là,
c'est pour cela qu'on est sur une échelle de quelques jours probablement avant la confirmation de cette inculpation, qui au passage a été rendue publique, alors qu'elle n'était pas forcément publique, mais elle a été rendue publique, elle a fuité, disons, au mois de juin, dans un contexte d'ailleurs politique assez particulier.
Alors a été créé en 2015, alors que le tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, lui, avait déjà jugé et condamné des responsables politiques et militaires, surtout côté serbe, pour leurs décisions et actions dans la guerre du Kosovo. Est-ce que côté indépendantiste, certains ont déjà été jugés ?
Alors, il y a eu plusieurs procès. Le problème, c'est que la plupart des procès se sont terminés par des acquittements, pour des raisons. Alors le procès le plus retentissant étant celui de Ramush Haradinaj, qui a été premier ministre, qui est toujours, disons, un des parrains de la scène politique kosovare, une des figures centrales, qui a été, lui c'est un recordman, il a été jugé 3 fois. Il a été acquitté, réaccusé, reacquitté, enfin c'est un cas judiciaire en soi tout à fait spécifique, Ramush Haradinaj. Mais dans tous les cas, tous ces procès, celui de Fatmir Lima, il y a un autre commandant par exemple qui a également été ministre, ont échoué parce que dans quasiment tous les cas, les témoins contactés, entendus par l'accusation, soit ne se sont pas présentés à l'audience, soit se sont rétractés. parce qu'ils ont été victimes d'évidentes pressions. Pour le coup, pas mal de témoins avaient tout simplement disparu avant de pouvoir venir témoigner.
C'est-à-dire que c'est quand même 15 ans plus tard, quoi. 15 ans après cette guerre qui a fait 13 000 morts.
Alors, 20 ans plutôt, 20 ans. 20 ans, la guerre elle se termine en 1999, on est à 21
Je
ans.
Je parle, pardon, de la création du tribunal spécial pour le Kosovo, donc c'est qui était 15 ans après la guerre, quoi.
Tout à fait. Avec le problème évident, qui est, y a-t-il encore des témoins? Y a-t-il encore suffisamment de témoins? Enfin, il y a deux problèmes. C'est est-ce que les victimes et les témoins seront encore de ce monde pour venir demander justice ou témoigner? Et puis l'autre question étant celle de la protection des témoins.
Est-ce qu'on peut redire en quelques mots ce qui avait été dévoilé dans ce rapport du sénateur suisse Dick Marty à la fin de l'année 2010, donc que vous avez mentionné, qui a déclenché la création d'un tribunal spécial pour le Kosovo et dont on avait retenu à peu près qu'une chose, c'était la question du trafic d'organes?
Alors il y a fondamentalement deux choses qui sont concernées. Il y a d'une part effectivement des actes de persécution contre les minorités non albanaises du Kosovo, donc les Serbes mais également les Roms. Le cas le plus excellent.
De la part des indépendantistes.
De la part de la guérilla albanaise de Nucheka. Grosso modo, il s'agit d'à peu près 5 à 600 personnes qui ont été kidnappées, qui ont disparu et qui bien évidemment ne sont plus de ce monde aujourd'hui. D'après le rapport, il serait possible qu'une partie de ces victimes, en plus d'avoir été assassinées, ait alimenté un trafic d'organes qui passait par l'aéroport international de Tirana pour aller probablement vers Istanbul. Là, pour le coup, il y a différents acteurs de la chaîne internationale du trafic d'organes, notamment un médecin turc, le docteur Sönmez, un intermédiaire israélien qui sont assez bien connus. C'est donc des dossiers qui sont quand même très fortement étayés. Mais ça concerne une partie de ce qui est reproché à certains dirigeants de Lucheka dans le rapport Marty. L'autre aspect concerne des actes de détention illégale, de torture, de persécution contre des rivaux politiques albanais. Alors il s'agit de cadres essentiellement de la Ligue démocratique du Kosovo, le parti d'Ibrahim Rugova, l'autre grande faction, si vous voulez, de la scène politique albanaise du Kosovo. Des actes de détention illégale ou de torture commis durant la guerre, puisque pas mal de cadres de la LDK ont été séquestrés par la guérilla. Et puis, après la fin de la guerre, durant la fin de l'année 99, c'est pour cela que le tribunal va jusqu'en 2000, l'élimination physique de plusieurs centaines de cadres et de militants de la LDK qui ont été assassinés dans les mois de retour à la paix au Kosovo, d'après-guerre.
Le parlementaire suisse Dick Marty, dont il est question, c'est celui qui avait enquêté sur les prisons secrètes de la CIA en Europe où étaient retenus des terroristes sans aucune base légale. Mais avant lui, des accusations similaires avaient été portées, notamment en 2008 par l'ancienne procureure du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, Carla Del Ponte. Dans son livre, elle accusait déjà des membres de l'armée de libération du Kosovo d'avoir prélevé des organes sur près de 300 prisonniers retenus en Albanie pour les envoyer, disait-elle, dans des cliniques occidentales. Vous parliez d'Istanbul, elle disait clinique occidentale, mais à l'époque, même son ancienne porte-parole Florence Hartmann l'avait accusé de porter des accusations sans avoir le début d'une preuve. Dick Marty, lui aussi, on lui avait beaucoup dit qu'il faisait un peu d'esbrouf. Voilà. Ou est-ce que ça veut dire, est-ce que cette inculpation du président du Kosovo aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le tribunal spécial pour le Kosovo a de nouvelles preuves, de nouveaux éléments?
Alors très certainement, oui, c'est très certainement le cas. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur le trafic d'organes. Moi, pour le coup, si je devais, j'ai moi-même essayé un petit peu comme journaliste d'enquêter sur ce sujet. Le chiffre de 300 victimes avancé par Carla Del Ponte, à mes yeux, est probablement trop élevé. Bon, mais ensuite, je n'en sais rien. On verra bien ce que la justice pourra. Moi, je pense que si trafic d'organes il y a eu, c'est quelque chose qui est resté assez limité. Mais il y a beaucoup d'autres accusations en dehors du trafic d'organes qui sont, elles, tout à fait certaines. Ces 500-600 Serbes et Roms qui ont été kidnappés et qui ont été assassinés ne sont plus là. Je veux dire, ça, c'est incontestable. Ça, c'est, je pense, peut-être le plus important. Alors qu'il ne faut pas se focaliser que sur le trafic d'organes, malgré le côté dramatique, bien sûr, que prend cette thématique. Et puis, il y a aussi ce qui est extrêmement important, c'est les éliminations dans le Kosovo d'après-guerre des opposants politiques albanais. Il y a une véritable des centaines de morts et pour le coup, il y a là une complicité internationale qui est évidente parce qu'on est dans un Kosovo d'après-guerre où sont déployés 40 000 soldats de l'OTAN.
L'OTAN est arrivé à un moment avec sa force de paix au début des années 2000.
40 000 soldats de l'OTAN dans un pays de 10 000 km² où on assassine tous les responsables du parti politique opposé albanais, opposé à la guérilla. Il y a à l'époque un administrateur spécial qui est monsieur Kouchner, et toute l'administration internationale explique grosso modo ces meurtres, c'est des affaires de vendetta, on n'y peut rien, et surtout on ne veut pas mettre notre nez dans les affaires inter-albanaises, ce qui est une forme de manière de cautionner cette dérive criminelle d'un petit groupe au sein de l'UÇK, petit groupe effectivement fondamentalement lié à l'actuel président Hashim Saraci et au chef du Parti démocratique du Kosovo, Kadri Veseli.
C'est ce que disait Dick Marty encore une fois dans son rapport. Les organisations internationales en place au Kosovo privilégient alors une approche politique pragmatique, estimant devoir favoriser à tout prix la stabilité à court terme et sacrifiant, disait-il, d'importants principes de justice. Est-ce que cette inculpation du président kosovar peut entraver aujourd'hui le processus de rapprochement politique qui suit son cours quand même qu'à un cas entre le Kosovo et la Serbie, entre Pristina et Belgrade?
Non, au contraire, je crois que cela va... lever une fantastique hypothèque qui pèse sur le dos de la société kosovare, lui permettant de tourner la page de la guerre et de s'engager dans la normalisation qui est inéluctable des relations avec la Serbie.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut imaginer qu'un politique serbe accepte de continuer des négociations avec un président dénoncé par le Conseil de l'Europe et maintenant par la justice internationale?
Non, mais Hashim Saraci a toujours dit que si son accusation était confirmée, ce qui sera très certainement le cas dans les prochains jours, il irait à la haie, ce qui veut dire qu'il démissionnera de sa fonction de président. Donc je pense qu'Hashim Saraci va fort heureusement quitter la scène politique du Kosovo. On va donc passer véritablement, je l'espère, à une nouvelle page de l'histoire de ce pays et donc de sa possibilité de reconstruire des relations avec ses voisins, y compris bien sûr la Serbie. Hashim Saraci, il faut le comprendre, s'était posé en acteur central du dialogue avec son homologue serbe, le président Vučić, alors que pour le coup, il n'avait pas vraiment le mandat pour le faire. Le Kosovo est une démocratie parlementaire, donc c'est plutôt le gouvernement, le premier ministre, qui doit mener un sujet aussi important que les négociations avec la Serbie. Mais Hashim Saraci avait très bien compris qu'il avait à peu près deux options devant lui, deux cases possibles. En tout cas, c'est comme ça qu'il voyait les choses, le prix Nobel de la paix ou la case prison. Le prix Nobel de la paix s'est râpé, on lui a préféré le programme alimentaire mondial et il n'y a pas vraiment eu de succès dans le dialogue avec la Serbie. Quelle est l'autre case qui reste ?
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Arnaud Derrins. Et puis sur le sujet du rapprochement entre le Kosovo et la Serbie, entre Pristina et Belgrade, j'invite les auditeurs à écouter l'émission Culture Monde de Florian Delorme et son équipe. Le numéro d'hier était justement consacré à l'ex-Yougoslavie dans le cadre d'une semaine sur les territoires désunis. Et vous en étiez, Jean-Arnaud Derrins. Merci beaucoup et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Info, intox ou buzz, il est temps d'y voir clair. Nicolas Martin.
Les masques servent-ils à quoi que ce soit contre le Covid? Est-il vrai que plusieurs souches du virus circulent? Mais parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie, est-ce que le tout répressif contre les drogues est efficace? Le mouvement QAnon est-il un mouvement populaire? Et la 5G est-elle un complot de Bill Gates pour nous implanter des puces dans le cerveau? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais souvent des mauvaises réponses. Essayons ensemble d'avoir les idées claires.
Les idées claires, une vidéo, un podcast, le mercredi sur franceculture.fr. France Culture et le Théâtre de la Ville s'associent et présentent Combat. 10 week-ends de réflexion, débats, lectures, spectacles autour de grands thèmes d'actualité. Prochain rendez-vous les 17 et 18 octobre en public à l'Espace Cardin à Paris. Assistez à la conversation scientifique d'Étienne Klein avec Raphaël Antoven, l'esprit public d'Émilie Aubry et ses invités, la masterclass d'Emmanuel de Marcy-Mota, ainsi que la lecture de l'adaptation des Naufragés de Patrick Declercq, enfin au spectacle Pleasant Island sur la surexploitation des richesses d'une île paradisiaque. Réservation théâtredelaville-paris.com. Plus d'infos, franceculture.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez sur France Culture, et bonjour à vous Guillaume Erner.
Et bonjour Julie Gacot, et bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h57, ça veut dire que c'est votre humeur du jour Guillaume, et ce soir donc... Ah non, déjà c'est couvre-feu.
Ben j'en sais rien, mais en tout cas, il faut s'interroger sur ce mot qui est partout. Aujourd'hui, couvre-feu, rien que le mot et programme. D'ailleurs, le programme, c'est le mot. Une fois de plus, c'est dans le vocabulaire guerrier qu'on va puiser pour bien montrer qu'on va faire la guerre au virus. Sans qu'on sache très bien d'ailleurs ce que l'on couvre. De vagues souvenirs, vous savez, dessinent ce qu'était un couvre-feu, les lumières qui s'éteignaient pendant le blitz à Londres, le bruit des gazogènes au loin, les nuits passées dans le métro, ou bien le dernier dernier métro lui-même. Mais comme on le sait, l'histoire se répète toujours, une fois en tragédie, l'autre fois en farce. Ce couvre-feu, s'il advient, hein, n'aura qu'un lien lexical avec le précédent. Il s'agit uniquement de trouver le mot qui fait peur, le plus peur possible. Car notre nouvel ennemi, Julie, c'est moins un virus que l'insouciance. Et à longueur de journée, cette cinquième colonne, cet ennemi de l'intérieur est dénoncé. Les jeunes insouciants, les papis et mamies insouciants, les insouciants qui portent leur masque sous le nez, les insouciants qui fêtent l'anniversaire du petit dernier à 12 dans une pièce. Moi, j'aimerais bien qu'on m'en montre un insouciant. Ça doit faire quelque temps que je n'en ai pas rencontré, des personnes qui se satisfont de la situation, voire qui en seraient heureuses. Les badauds de la pandémie. On a donc trouvé l'arme absolue, le couvre-feu. Alors, pour comprendre à quoi sert un couvre-feu, il faut se souvenir de ce que Durkheim présentait comme un rite. Le rite, expliqua-t-il en substance, n'agit pas comme il dit qu'il agit, et cependant, il agit, peu importe finalement, que les personnes puissent aussi se contaminer la journée, puisqu'après tout, s'il y a un couvre-feu à partir de 20h, 22h, 23h, peu importe, il nous sera loisible de nous contaminer avant. Donc ce qui compte, c'est que le corps social perde sa légèreté, enfin en perde encore, qu'on en finisse avec ses comportements de relâchement, bref, que le corps social pèse enfin des tonnes. Bienvenue au couvre-feu, nous sommes prêts à défendre la patrie à coups d'écouvillon, nous saurons bientôt d'ailleurs si nous avons réinventé la ligne de démarcation ou la ligne Maginot.